Chapitre 6. Fag. Je passais deux longues années à Repton comme Fag, ce qui signifiait que j'étais le serviteur du chef de la turne dans laquelle j'avais mon petit pupitre. Si le chef de turne se trouvait être bozeur d'une maison, c'était pis pour moi, car les bozeurs constituaient une engeance dangereuse. Au cours de mon deuxième trimestre, j'eus la malchance d'être mis dans la turne du prévôt de la maison, un certain Carleton, âgé de 17 ans, odieux et arrogant. Carleton vous toisait toujours du haut de sa grandeur, et même si vous étiez de la même taille que lui, ce qui était mon cas, il réussissait quand même à vous toiser de haut. Carleton avait trois fags dans sa turne, et il nous terrifiait tous les trois, en particulier le dimanche matin, car c'était jour de grand nettoyage. Tous les fags, dans toutes les turnes, devaient enlever leurs vestes, retrousser leurs manches, aller chercher des seaux d'eau et des serpillères et récurer la turne. Et quand je dis « récurer », j'entends par là, à peu de choses près, la stériliser. Il nous fallait frotter par terre, laver les carreaux, astiquer la grille de la cheminée, épousseter les moulures, essuyer les cadres des tableaux et ranger avec soin toutes les crosses de hockey, les battes de cricket et les parapluies. Ce dimanche-là, nous avions passé toute la matinée à nous échiner pour nettoyer la turne de Carleton lorsqu'il entra dans la pièce, juste avant le déjeuner, en disant « Vous avez eu assez de temps ?»« Oui, Carleton, » murmurâmes nous tous les trois en tremblant. Nous nous reculâmes, essoufflés par nos efforts conjugués, contraints comme toujours d'attendre et d'observer le terrible Carleton pendant qu'il passait son inspection rituelle. Pour commencer, il allait chercher dans un tiroir de son pupitre un gant de coton blanc qu'il enfilait cérémonieusement à sa main droite. Ensuite, prenant son temps, y mettant autant de soin qu'un chirurgien dans une salle d'opération, il se déplaçait lentement dans la pièce, promenant ses doigts gantés de blanc sur les moulures, le sommet des cadres de tableaux, la surface des pupitres et même sur les barreaux de la grille de cheminée. Toutes les 3 ou 4 secondes, il approchait ses doigts blancs de son visage, à la recherche de traces de poussière, et nous l'observions tous les trois, osant à peine respirer, attendant le moment redouté où le grand homme s'immobiliserait pour vociférer « Ah ! Qu'est-ce que je vois là ?» Une expression de triomphe éclairait son visage, et il dressait un index blanc sur lequel on apercevait une minuscule traînée de poussière grise. Et il nous dévisageait de ses yeux bleu pâle, légèrement globuleux, en disant « Vous ne l'avez pas nettoyé, n'est-ce pas? Vous ne vous êtes même pas donné la peine de nettoyer ma turne correctement. » Pour nous qui avions passé la matinée entière à travailler comme des esclaves, ces mots étaient une insulte à la vérité. « Nous avons tout nettoyé, Carleton, » répondions-nous, « sans rien oublier. Dans ce cas, pourquoi ai-je de la poussière au bout du doigt ?» demandait Carleton en levant le menton pour nous toiser de tout son haut. « C'est bien de la poussière, n'est-ce pas ?» Nous nous avancions pour examiner la main gantée de blanc et la minuscule mouchure grisâtre au bout de l'index, et nous demeurions silencieux. Je mourais d'envie de lui faire remarquer qu'il était absolument impossible de nettoyer une pièce aussi utilisée que celle-ci au point de ne pas y laisser le moindre grain de poussière. Mais ça aurait été du suicide. « L'un de vous conteste-t-il le fait que c'est bien de la poussière ?» insistait Carleton, l'index toujours dressé. « Si je me trompe, dites-le moi donc. » « Ce n'est pas beaucoup de poussière, Carleton. Je ne vous ai pas demandé si c'était beaucoup de poussière ou pas beaucoup de poussière, » répliquait Carleton. « Je vous ai simplement demandé si c'était de la poussière. Est-ce que ça pourrait être, par exemple, de la limaille de fer ou de la poudre de riz ?»« Non, Carleton. » « Ou de la poussière de diamant, peut-être ?»« Non, Carleton. Alors, qu'est-ce que c'est ?»« C'est de la poussière, Carleton. »« Merci, » disait Carleton. « Vous admettez enfin que vous n'avez pas nettoyé correctement ma turne. Par conséquent, je vous verrai tous les trois au vestiaire ce soir après les prières. » Les règles et les rituels qui régissaient la vie des fags à Repton étaient si compliqués que je pourrais en remplir tout un livre. Le bozeur d'une maison, par exemple, pouvait obliger n'importe quel fag dépendant de lui à obéir à ses ordres. De quelque endroit du bâtiment, le vestiaire, la cour ou un couloir, il pouvait hurler « Fag !» à plein poumon et tous les fags du collège devaient laisser tomber immédiatement leurs tâches et se ruer vers l'origine de la voix. Une cavalcade effrénée se déclenchait toujours lorsque le mot « Fag !» retentissait dans la maison, car le dernier arrivé était invariablement choisi pour accomplir la corvée subalterne ou déplaisante imposée par le bosseur. Durant mon premier trimestre, un jour, juste avant le déjeuner, je me trouvais au vestiaire en train de décrotter les souliers de foot du titulaire de ma turne, dont les semelles étaient incrustées de boue, lorsque j'entendis le fameux appel « Fag !» au loin, à l'autre bout de la maison. Je laissais tout tomber, me mis à courir. Mais j'arrivais le dernier, et le bosseur qui avait appelé, un robuste athlète du nom de Wilberforce, déclara « Dal, viens ici !» Les autres fags disparurent à la vitesse de la lumière et je m'avançais sans enthousiasme pour recevoir mes ordres.
« Va chauffer mon siège dans les gogues, » me dit Wilberforce, « et qu'il soit bien chaud !»
Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il entendait par là, mais je savais déjà qu'il valait mieux ne jamais poser de questions à un bosseur. Je m'éloignais donc précipitamment et allais demander à un autre fag la signification de cet ordre étrange. C'était simple. Le bosseur avait envie d'aller aux toilettes, mais voulait qu'on lui réchauffe le siège avant de s'y asseoir. Les six latrines de la maison, toutes dépourvues de portes, étaient situées dans un appentis non chauffé, et par une froide journée d'hiver, on pouvait attraper des engelures si on s'y attardait trop. Il faisait une température polaire ce jour-là, et, pataugeant dans la neige, je me dirigeais vers l'appentis et entrais dans les latrines numéro 1, réservées, je le savais, au bosseur. Je commençais par essuyer, avec mon mouchoir, le siège couvert de givre, puis je baissais mon pantalon et m'assis. Je restais là à attendre, par un froid glacial, 15 bonnes minutes, avant que Wilberforce n'arrive enfin.
« Tu as enlevé la glace ?» demanda-t-il.
« Oui, Wilberforce. »«
C'est chaud ?»«
J'ai fait ce que j'ai pu, Wilberforce, » répondis-je.
« On va voir ça, tu peux te lever maintenant. »
Je me levais du siège des toilettes et remontais mon pantalon. Wilberforce baissa le sien et s'assit.
« Très bien, » dit-il, « parfait, vraiment. »
On aurait dit un abatteur de vin goûtant un vieux Bordeaux.
« Je te mettrai sur ma liste, » ajouta-t-il.
Je restais là, reboutonnais ma braguette sans avoir la moindre idée de ce qu'il voulait dire.
« Certains fags ont les fesses froides, » expliqua-t-il, « et d'autres bouillantes. Je n'utilise que les fags ayant les fesses bouillantes pour chauffer mon siège. » « Je ne t'oublierai pas. »
Il tint parole. À partir de ce jour-là, et durant tout l'hiver, je devins le chauffeur de siège attitré de Wilberforce, et du coup, j'avais toujours un livre dans la poche de ma veste afin de passer le temps durant ces longues séances de réchauffage. J'ai dû lire les œuvres complètes de Dickens, assis sur la lunette des cabinets de ce bosseur, durant mon premier hiver à Repton.